BPM Vernon 99.3.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission BPM Magazine. Nous sommes ravis de vous proposer cette émission où cette semaine nous recevons Cécile Charron qui est ici pour nous parler du service de médiation familiale Le Trait d'Union qui fait également partie de l'association Les Fontaines. Bonjour Cécile, comment allez-vous ?
Bonjour, bah écoutez, je vais bien, merci.
Ça va très bien. Avant de parler de Trait d'Union et du coup aussi un petit peu de l'association des Fontaines, on va quand même parler un petit peu de vous. Cécile, qui êtes-vous pour nos auditeurs ?
Alors donc moi je suis Cécile Charron, médiatrice familiale depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et depuis 2 ans, je suis à l'association Les Fontaines, donc le service Trait d'Union, où je suis à la fois médiatrice familiale et responsable du service Trait d'Union. Alors, donc, comme je vous disais, je suis médiatrice depuis une dizaine d'années. Alors, j'ai été principalement médiatrice dans 2 autres lieux avant de venir ici à Vernon. J'ai été médiatrice dans le 93 pendant presque 8 ans dans un service de médiation. Et puis également pendant 2 ans dans la Manche à Saint-Lô.
Et vous voilà maintenant dans l'Eure, un nouveau département.
Voilà, c'est ça, depuis à peu près 2 ans.
Comment est-ce que vous êtes devenue médiatrice familiale ? Il y a eu un parcours, des diplômes particuliers à avoir ?
Oui, alors pour être médiatrice familiale, il faut passer un diplôme d'État, en fait, qui s'appelle le diplôme d'État de médiateur familial. C'est un diplôme qui se prépare en 2 ans. Alors, il s'agit d'une formation à la fois... j'ai envie de dire théorique et pratique. Donc il y a des modules de formation en psychologie, sociologie et surtout technique de communication pendant à peu près 1 an ou 18 mois. Ensuite il y a un stage pratique obligatoire qui est assez long, donc il s'agit de faire un stage dans un service de médiation auprès d'un médiateur déjà confirmé. Et puis il y a un mémoire. Donc il faut choisir un sujet de mémoire et ensuite rédiger son mémoire pour pouvoir obtenir le diplôme.
Et après on devient médiatrice familiale si on a tout réussi, mais une médiatrice familiale du coup concrètement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites ?
Alors une médiatrice ou un médiateur, alors c'est vrai que c'est un métier un peu plus féminisé, mais bon il y a aussi des médiateurs familiaux. Alors l'idée de la médiation familiale c'est de proposer aux personnes qui sont en situation de conflit dans la sphère familiale un espace d'échange, de communication, surtout donc lorsque la communication est devenue difficile en dehors de cet espace-là. Donc le médiateur est là pour aider en quelque sorte les personnes à reprendre une communication et éventuellement après à chercher des accords pour un nouveau fonctionnement familial. C'est ça en gros.
Ce sont des dialogues rompus à la base et après repartir sur de meilleures bases.
Oui, voilà. Alors, il y a toutes sortes de conflits familiaux. C'est vrai que la majorité des conflits familiaux auxquels nous avons affaire, en quelque sorte, ce sont des conflits au moment des séparations. Alors, soit des divorces, soit des séparations parentales. Là, on le sait bien, il y a souvent beaucoup de colère, le dialogue est souvent rompu. Donc l'idée, c'est de reprendre une communication un peu plus apaisée, toujours dans l'intérêt des enfants. Donc ça, c'est quand même une grande partie de notre travail. Mais on a aussi des conflits familiaux qui concernent ce qu'on appelle l'intergénérationnel, c'est-à-dire par exemple des grands-parents et des parents. Lorsque le dialogue est rompu et que, par conséquence, les grands-parents n'ont plus accès aux petits-enfants. Donc ça, finalement, c'est un type de médiation qui se développe peu à peu. Voilà, on en a un petit peu plus qu'il y a 10 ans, par exemple, lorsque j'ai commencé à travailler. Et puis, on a aussi des médiations entre parents et adolescents. Lorsque, au moment des difficultés liées à l'adolescence, le dialogue est rompu, là aussi, la médiation peut éventuellement jouer un rôle. C'est l'essentiel de nos interventions.
Question peut-être indiscrète, c'était une vocation pour vous à la base de devenir médiatrice familiale ?
Alors non, parce que comme beaucoup de gens en fait, je ne connaissais même pas le métier à un moment donné. Alors il y a eu une conjonction en fait d'événements, certains événements de la sphère privée. bon, je ne vais pas les développer là, mais moi j'ai eu dans mon environnement très proche des personnes qui ont mis plus de 10 ans à divorcer et qui se sont vraiment déchirées avec toutes sortes de conséquences sur l'ensemble de la famille. Mmh. Donc là, je me suis dit, mais peut-être qu'on peut faire autrement. Donc là, j'ai essayé de voir ce qui pouvait exister. Donc j'ai appris que la médiation familiale existait. Et également, dans ma vie professionnelle auparavant, j'étais professeur en collège et lycée. Et j'ai vu aussi que les séparations parentales pouvaient avoir des conséquences
sur les notes.
Sur les notes et puis sur le bien-être ou le mal-être des ados qui sont déjà dans une période, par définition, pas toujours très facile à gérer, mais qui, en plus, lorsqu'ils vivent des difficultés liées à la séparation parentale, peuvent se trouver en grande difficulté. Donc voilà, c'est ces conjonctions de circonstances qui m'ont fait m'intéresser à la médiation familiale. Et là, j'ai appris qu'il y avait une formation et j'ai décidé de me lancer dans cette formation.
En fait, l'idée, c'est de ramener du bien-être vraiment à toute la famille, au final.
Oui. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, il est vrai que la médiation est centrée avant tout sur l'intérêt des enfants, mais évidemment, par ricochet, l'intérêt des adultes est aussi pris en compte, évidemment.
Passons à ce service, enfin on l'a dit, ce service donc Trait d'Union dont vous êtes responsable, il fait partie de l'association des Fontaines. Du coup, avant de parler plus en détail de Trait d'Union, parlons justement de cette association des Fontaines. Qu'est-ce que c'est comme association, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, l'association Les Fontaines est une association qui est départementale, c'est-à-dire qui concerne uniquement l'Eure. C'est une association qui a été fondée il y a déjà assez longtemps, puisqu'elle date de 1955. Alors, actuellement, elle comprend quatre pôles. Alors, un pôle protection de l'enfance. Donc là, il s'agit surtout d'accompagner des enfants en difficulté sociale, éducative et familiale. Il y a un pôle handicap moteur, donc là ce sont des enfants qui présentent des handicaps physiques ou une maladie neurodégénérative, ou parfois les deux d'ailleurs. Il y a un pôle pour les enfants et adolescents en difficulté psychologique, donc avec plusieurs ITEP, et puis donc le pôle médiation familiale.
D'accord. Et donc ce pôle médiation familiale qui s'appelle Trait d'Union, c'est ça?
Voilà, qui s'appelle Trait d'Union. Trait d'Union existe, est rattaché à l'association Les Fontaines depuis 2003, donc ce seront les 20 ans l'année prochaine.
Ah, voilà. Ça fait quand même déjà un petit bout de temps que Trait d'Union est ici, donc, et vous, ça fait 2 ans que vous êtes présent.
Oui, 2 ans et demi maintenant, oui. Mmh.
Et donc Trait d'Union, justement, on a parlé donc d'être médiatrice familiale, un service de médiation familiale. Du coup, c'est le même principe qu'une médiatrice familiale au final.
Alors le service Trait d'Union en fait comporte 4 personnes. Donc nous sommes 3 médiatrices. Donc moi je suis à Vernon, donc j'exerce mes activités sur Vernon, mais j'ai aussi des permanences avec des partenaires sur 3 lieux, à Gisors, à Étrépagny et aux Andelys. Donc ça nous paraît important de garder ces permanences, puisque finalement, ça nous rapproche du public. C'est pour certaines personnes, c'est compliqué de venir à Vernon. Mmh. Donc voilà, là, ça nous permet d'être présent sur une plus grande partie du territoire de l'Eure. Sinon, nous avons aussi une médiatrice qui est basée à Évreux, et puis une autre qui est basée à Louviers.
D'accord.
Voilà. La médiatrice de Louviers est toute récente dans l'association, puisqu'il y a eu un changement de médiatrice au mois de décembre. Donc voilà, donc nous sommes 3 médiatrices. Et puis, très important aussi, nous avons une secrétaire d'accueil administrative qui elle est basée à Vernon et qui s'occupe de l'accueil téléphonique, qui est une partie importante du travail, et puis toute la gestion administrative des dossiers, etc.
Et donc, du coup, alors, au sein de l'association des Fontaines en elle-même et donc du coup Trait d'Union, on vous retrouve partout. Quasiment partout sur le département, au final, c'est ça?
Alors, surtout sur l'est du département. Mmh. Dans le département, en fait, il y a 2 associations. Trait d'Union est plutôt sur l'est du département, et l'autre association, plutôt sur l'ouest, vers Pont-Audemer.
D'accord. Mmh. Et alors, du coup, ici, du coup, au sein de Trait d'Union, en termes d'aide, de soutien, qu'est-ce que vous apportez et comment est-ce que vous apportez vos différentes aides, vos différents soutiens pour les familles qui viennent vous voir?
Alors, il y a plusieurs façons, en fait, d'arriver à la médiation familiale et donc à trait d'union. Alors, les personnes peuvent venir d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont entendu parler de la médiation familiale à l'occasion, par exemple, d'une émission comme la vôtre, ou bien sur Internet aussi. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui se renseignent par Internet. À ce moment-là, ce sont des personnes qui ont identifié une difficulté familiale et qui s'adressent à nous pour savoir si la médiation peut leur venir en aide. On appelle ça les médiations conventionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne les oblige à venir. Elles viennent et puis elles s'aperçoivent que de ce qu'on leur décrit de la médiation, ça pourrait les aider et on met en place une médiation. L'autre moyen d'arriver au service trait d'union, c'est par le biais de la justice. Par exemple, lorsqu'il y a des personnes qui déposent une requête aux affaires familiales au tribunal judiciaire d'Évreux, systématiquement, les juges proposent un entretien d'information à la médiation. L'idée, c'est de proposer aux personnes un lieu d'échange avant l'audience, pour déjà que désamorcer le conflit et voir si les personnes peuvent d'elles-mêmes trouver un accord et qu'ensuite le juge entérinera, s'il est conforme à la loi évidemment. Donc ça c'est la deuxième façon d'arriver. Et il y a une autre façon, toujours dans le domaine judiciaire, au moment d'une audience, parfois les juges aux affaires familiales ordonnent une médiation familiale, ils se rendent compte qu'en fait le conflit reste important malgré la décision de justice et là ils demandent aux personnes de venir en médiation.
Et du coup, dans certains cas, notamment dans ce dernier cas-là, doit y avoir des moments où les parties qui viennent vous voir ne sont pas forcément, n'ont pas forcément envie de faire le travail. Ça ne doit pas être évident à ce moment-là.
Mmh. Oui, tout à fait. Ça fait partie du travail du médiateur d'expliquer à quoi peut servir la médiation, qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes, et puis éventuellement aussi à leurs enfants. Alors, ce qui est obligatoire, de toute façon, c'est l'entretien d'information. Mmh. Après, même si c'est le juge qui envoie les personnes, le fait de commencer un processus de médiation reste facultatif. C'est fortement conseillé, mais si les personnes vraiment ne le souhaitent pas, elles ne sont pas obligées.
D'accord. Mmh. Donc, même les personnes qui viennent à reculons ont le choix quand même, au final, de ne pas faire ce service.
Voilà. Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que un certain nombre de personnes arrivent à reculons. Vous avez tout à fait raison, parce que parfois la dernière chose dont elles ont envie, c'est de se retrouver face à leur ex, par exemple, et de discuter. Mais parfois, lorsqu'elles ont commencé à expérimenter finalement ce que la médiation peut apporter, par exemple au cours d'une première séance, un certain nombre de personnes, heureusement, changent leur perspective et se disent finalement, si, là c'est un espace tranquille, protégé, confidentiel aussi. Ça c'est important, la médiation ça reste confidentiel, donc finalement elles finissent par adhérer. Donc l'expérimentation en matière de médiation familiale est très importante.
Et du coup au final, dans ces séances, l'idée c'est de mettre des mots sur des mots au final, c'est ça ?
Exactement, oui, c'est un slogan qui est parfois utilisé d'ailleurs par des collègues médiateurs. Oui, tout à fait. Souvent, au cours d'une médiation, il y a une première étape où il s'agit simplement de parler du conflit, des origines du conflit, ce qui a à un moment donné grippé les relations familiales. Voilà. Et lorsque les choses sont dites, et surtout lorsque les personnes se sentent écoutées par l'autre, ça permet de désamorcer et ensuite de passer à la deuxième étape. Maintenant, comment faire autrement ? Voilà, comment partir sur d'autres bases et éventuellement se mettre d'accord sur une nouvelle façon de fonctionner.
Parce que pour la plupart du temps, j'imagine que les problèmes qu'il y a dans ces familles, ça part de non-dits et peut-être aussi un peu de déni, c'est ça ?
Oui, alors il y a toutes sortes de configurations. J'imagine. Il peut y avoir des non-dits, c'est vrai. Alors les non-dits, on les trouve beaucoup, par exemple, dans les situations dont je parlais tout à l'heure, entre grands-parents et parents. Parce que des fois, là, le conflit est très ancien, date de l'enfance des parents. Donc là, finalement, les non-dits se sont accumulés. Et si on n'en parle pas, il ne se passera rien. Sinon, le déni. Oui, alors ça, le déni, c'est aussi quelque chose, c'est difficile d'admettre un certain nombre de choses. Donc là, quand c'est fait de façon bienveillante, parce qu'en médiation, on reste toujours bienveillant de toute façon par rapport à ce que les gens ressentent, etc. Donc ce climat de bienveillance permet aux personnes d'aller au-delà du déni.
Et alors, sur ces, comment dire, sur ces séances, en moyenne, on va dire entre gros guillemets, hein, parce que j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de moyenne, combien y a-t-il de séances pour sortir un petit peu la tête de l'eau, on va dire ?
Oui, alors vous avez raison, c'est difficile de donner un chiffre. Alors, et c'est très variable selon les familles. Parfois, lorsque le conflit est modéré et lorsque les personnes arrivent déjà à se parler un petit peu à l'extérieur, parfois une seule séance suffit. Et parfois, on peut aller jusqu'à 5 ou 6 séances. Mmh. Voilà, tout dépend du conflit. Chaque séance dure à peu près 1 heure et demie. Voilà. Et à la fin de chaque séance, on voit ensemble si c'est utile de revenir et de continuer la discussion.
Passons à un autre sujet. Depuis 2 ans, on le sait tous, hein, on vit dans un contexte de crise sanitaire assez particulier. Pour commencer ce sujet, je voulais aborder notamment les confinements et notamment le principal qui avait eu lieu il y a 2 ans, en mars 2020. Est-ce que, à la suite de ces différents confinements, où toutes les familles étaient toutes réunies 24 heures sur 24, vous avez ressenti plus de personnes qui avaient des problèmes au final au sein des familles?
Oui, c'est vrai que le confinement et les différentes mesures sanitaires ont souvent potentialisé les conflits. Alors, parfois, il y avait des conflits latents qui se sont révélés au moment du confinement. Ce qu'on a beaucoup vu, c'est des personnes qui ont accéléré leur décision de se séparer, par exemple. Ou déjà, il y avait un petit peu des hésitations, et là, finalement, le conflit a révélé que la cohabitation n'était plus possible. Alors, parfois, c'était compliqué parce que, pour des raisons financières ou pratiques, les personnes ont été obligées de continuer la cohabitation, malgré le fait qu'elles souhaitaient se séparer. Donc là aussi, ça a généré des conflits importants. Ce qu'on a beaucoup vu aussi, c'est pour des personnes qui étaient déjà séparées, lorsqu'il y avait un droit de visite et d'hébergement, par exemple, qui était prévu pour les enfants, malgré les décisions gouvernementales qui disaient que la circulation pour changer la résidence des enfants était toujours possible, il y a des parents qui n'ont plus respecté les jugements. Et là, ça a été vraiment source de très gros conflits. Il y a certains enfants, par exemple, qui n'ont plus vu le parent non hébergeant principal pendant plus d'un mois, 2 mois, 3 mois ou parfois 6 mois. Donc là, il y a vraiment eu des conflits importants. Et on a aussi eu plus de conflits entre parents et adolescents. On le sait, hein, les périodes de confinement et de restrictions ont été très difficiles à vivre pour un certain nombre d'adolescents. Et parfois, ça a fait exploser les relations avec les parents.
Et encore une fois, tout ça s'est répercuté sur les enfants, au final, tous ces conflits.
Oui. J'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a un conflit parental, il y a des répercussions sur les enfants. Alors, c'est vrai que les situations de séparation, on ne va pas faire d'angélisme, il y a toujours un moment qui est difficile pour les enfants. Ça leur fait forcément, ça les fait souffrir souvent de voir leurs parents se séparer. Des fois, ils ne comprennent pas. Certains enfants estiment qu'ils ont une part de responsabilité. Donc là, c'est très important aussi de les dédouaner de ça, de leur expliquer que c'est pas de votre faute si les parents se séparent. J'ai un petit peu perdu mon fil. Je disais que donc au-delà de cette souffrance au moment où les enfants apprennent que les parents vont se séparer, ce qui fait souffrir les enfants, c'est lorsque le conflit persiste. Si les parents arrivent à se mettre d'accord, à trouver entre eux une organisation qui leur convient, qui convient à leurs enfants, finalement les enfants se font facilement à leur nouvelle vie. À partir du moment où le conflit s'arrête finalement, parce qu'on peut très bien se séparer et alors être en conflit pendant 2 mois, 3 mois, d'accord, mais après trouver des accords, c'est ça qui est important. Ce qui est néfaste pour le développement des enfants, c'est lorsque le conflit persiste, et parfois il peut persister des mois et des années, et là pour le coup ça devient néfaste pour les enfants.
On s'approche de la fin de l'émission. Pour conclure cette émission, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver, vous, pour Trait d'Union?
Alors, nous avons un numéro de téléphone que les personnes peuvent utiliser. Il s'adresse à ce moment-là à notre secrétaire d'accueil qui est chargé de l'ouverture du dossier. C'est le 02 32 21 58 14. Nous avons aussi nous avons un site, mais nous avons une adresse mail, traitdunion@lesfontaines.fr.
Eh bien, merci beaucoup, Cécile Charron.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'être venue nous parler de Trait d'Union. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.
BPM Vernon, 99.3.